La suite des programmes sur Radio Éthique, c'est avec une news de Pascal Marcadji.
Entre subir et agir, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a consacré un cinquième forum au vivre ensemble le changement climatique. Parmi les intervenants, Dominique Bourg, professeur à l'Université de Lausanne et vice-président de la Fondation Nicolas Hulot.
La Bible nous a amenés à le projeter dans l'avenir. Si l'on veut s'accrocher à cet imaginaire, ça va devenir difficile. Au contraire, je dirais qu'il va falloir s'habituer à une association des contraires plus vive qu'elle ne l'a jamais été. Il est clair qu'on va faire, par certains côtés, un avenir somme toute plus sombre, ce qui n'empêchera pas, et je l'espère, aussi tout de même des côtés lumineux, et j'y reviendrai in fine. En tout cas, c'est la première fois que l'histoire se présente pour nous d'une façon très très particulière. D'un côté, elle est toujours associée à de très importantes incertitudes, mais en même temps et pour la première fois, le terrain de jeu de l'histoire, c'est-à-dire le monde à proprement parler, la Terre, le système Terre, va changer. Et c'est nous qui, pour l'essentiel, influons sur ce changement. Et l'histoire, elle est presque déjà indiquée par les marges entre le scénario le plus émetteur et le scénario volontaire raisonnable. Même si, mon cher Jean, tu as dit toi-même que les 2 degrés, il faudrait sans doute un miracle pour les atteindre. En tout cas, le problème, c'est de s'en éloigner le moins possible. Maintenant, si l'on veut comprendre ce nouveau monde qui nous attend et par rapport auquel, justement, là aussi, il va falloir se départir de ces contraires entre agir et subir, nous allons subir, mais nous allons aussi agir. Et l'un ne va pas se substituer à l'autre. Le changement climatique, c'est un phénomène systémique, tant en tant que cause que dans ses effets. C'est les premiers aspects que je voudrais très rapidement développer. D'une part, le changement climatique intervient sur une biosphère qui est déjà relativement éreintée par les activités humaines. Mais lui-même va affecter l'ensemble de la biosphère. Les impacts sur la biodiversité peuvent être gigantesques. Je vous rappelle qu'entre 1970 et 2010, ce sont la moitié des mammifères, la moitié des oiseaux, la moitié des amphibiens, la moitié des reptiliens, la moitié des poissons qui ont disparu. Le changement climatique va affecter cette biosphère, déjà très fragilisée. Il va évidemment agir sur le cycle de l'eau, agir sur l'acidification des océans, être sur la météo, ça nous a été rappelé. Les forces que nous avons déclenchées, l'humanité est devenue une force géologique, ont elles-mêmes une incidence géologique. Le climat, le changement climatique affecte le système Terre lui-même. La fonte des glaces de l'inland 6 du Groenland, en faisant remonter en quelque sorte le continent, interagit avec les activités volcaniques et même probablement avec la tectonique des plaques. C'est pour vous dire les forces que nous avons déclenchées. Elles vont au-delà de ce qu'on appelle communément l'environnement. Donc par rapport à ça, la notion de risque me paraît relativement décalée. Quand on parle de risque, on parle de dommages susceptibles par rapport à un gâteau ou à quelques-unes de ses parts. Le changement court, il va non pas affecter simplement les parts du gâteau, mais l'assiette elle-même. Elle va devenir plus petite, elle pourrait être relativement instable. Ça n'a plus rien à voir avec un risque. Un risque, ça suppose qu'on puisse mutualiser, que ce soit circonscrit dans le temps et dans l'espace, qu'il y ait un sens à compenser. Si effectivement l'écoumène, c'est-à-dire la partie en permanence habitable de la Terre, pas seulement d'ici à la fin du siècle, mais dans les siècles futurs, dans les millénaires futurs, est amenée à se rétrécir, je ne pense pas que le mot de risque soit adéquat. L'enjeu aujourd'hui, ce sont les conditions d'habitabilité de la Terre et leur transformation. Sur le plan des causes aussi, bien sûr, les causes du changement climatique, c'est le moteur même de notre civilisation. C'est l'énergie qu'elle consomme. L'énergie, c'est le sang de nos activités économiques. Ce n'est peut-être que 4% du PIB, mais sans ces 4%, l'ensemble du PIB s'effondre. Il n'y a rien qui ne consomme de l'énergie, à commencer par le fait que nous autres humains ne sommes pas capables de produire de l'énergie. C'est une métaphore. Nous sommes capables de la capter, de la transformer, de la transporter. Et chacune de ces trois opérations a elle-même un coût. énergétique. L'énergie est en deçà de toutes nos activités. Elle nous accompagnera même jusqu'au crématorium. Et nous n'avons cessé de la voir augmenter en termes de consommation. Je vous rappelle qu'au début du siècle, en 1920, on consommait 2 millions de barils de pétrole par jour, déjà 11 en 50, 48 en 70, et aujourd'hui, grosso modo, 90 millions. Et cette consommation, en gros, finalement, en 60 ans pratiquement, parce que ce n'est qu'à compter des années 50 que l'on a commencé à consommer très intensément les énergies de manière générale, autant le charbon et plus tard le gaz, eh bien en 60 ans, nous aurons épuisé la moitié de réserves constituées à deux moments dans l'histoire de la Terre, dans des conditions très très particulières qui ne se reproduiront pas. Donc du fait, nous sommes arrivés à ce que nous appelons aujourd'hui l'anthropocène, c'est-à-dire une ère nouvelle dans laquelle nous entrons, est caractérisée par un impact massif des activités humaines. Alors, quelle terre, quel monde sous nos pieds en quelque sorte? Bien, je vous l'ai dit, la première information, c'est que l'écoumène, qu'on le veuille ou non, est sur le temps long, est voué à se rétrécir. C'est-à-dire la part en permanence habitable par les hommes est vouée à se rétrécir. Sous le coup de la montée des mers, probablement un mètre à la fin de ce siècle, mais sur les millénaires, c'est au moins l'Islandie du Groenland qui va fondre en totalité. Ça donnerait, je crois, 6 à 7 mètres. Et puis, évidemment, c'est aussi les glaces de l'Antarctique. Mais là, on est sur une hauteur tout à fait différente. Le régime des pluies va évidemment changer les conditions d'habitabilité de la Terre, la température moyenne, les événements extrêmes. Et par ailleurs, ceci va se produire sur une biosphère qui, en termes de ressources pour les activités humaines, est déjà largement appauvrie. Appauvri en termes de ressources fossiles accessibles, pas entièrement une mauvaise nouvelle, vous le savez, mais c'est aussi un lot de difficultés. Ressources minérales, elles-mêmes très largement appauvries, comme vous le savez, elles ne sont accessibles que dans de rares lieux où elles ont été concentrées, soit pour des raisons telluriques, soit pour des raisons bactériennes. Ces lieux, nous sommes en train de les épuiser. En d'autres termes, il y a un moment donné où nous n'aurons plus assez d'énergie pour aller chercher les métaux. Appauvri en termes de disponibilité d'eau d'ours, appauvri en termes de ressources biotiques. Simple exemple, regardez vos pare-brises aujourd'hui, ce qu'ils étaient en été il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Et songeons simplement au fait qu'aujourd'hui même, on pense que l'invasion des océans par les méduses est un phénomène irréversible. Je vous rappelle que 85% de la biomasse marine a disparu. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, probablement une humanité dont les effectifs vont devoir se réduire, ayant une capacité d'influer sur le milieu moins intense, moins élevée. Alors maintenant, on peut tout de même produire des récits de l'avenir contrastés. On peut imaginer que cet état de puissance auquel nous sommes parvenus soit une sorte de pic par rapport auquel nous allons redescendre. Ce serait le scénario de la rupture. Alors, dans le cas du scénario émetteur le plus élevé, ce scénario de la rupture, il est inévitable. Et puis, soyons d'un optimisme échevelé, mais on va voir que, pas très solide, on peut imaginer au contraire le scénario de la continuité. C'est-à-dire qu'imaginer qu'avec la fameuse singularité, la fameuse convergence de nos différents génies, etc., nous allons nous doter de moyens tels que nous allons être capables de faire face à ces forces géologiques gigantesques auxquelles nous serons immanquablement confrontés. On pourrait dire, là c'est le scénario de la continuité, nous avons été modernes et nous serons hyper modernes. L'autre est le scénario post-moderne. Mais ce scénario postmoderne peut avoir beaucoup d'atouts, même si effectivement il comporte une part d'ombre, mais il pourrait nous permettre de revenir à une certaine forme d'harmonie avec un milieu tout de même, je vous le rappelle, éminemment appauvri. Dans le scénario hypermoderne, pour dire transhumaniste, on est toujours avec comme objectif un arrachement incessant à la nature. Et on prétend en quelque sorte, la mater jusque dans ses forces géologiques, ce qui me semble quand même un peu prétentieux. Dans l'autre contraire, on revient à cette idée d'harmonie. Alors, très franchement, pour ma part, le scénario hyper moderne me semble tout de même sujet à caution. Nous n'aurons pas les minéraux pour le produire, nous n'aurons probablement pas l'énergie parce que les deux sont interdépendants pour le produire. Imaginons, comme on l'a pu lire il y a quelque temps dans les Échos, que nous sommes voués à vivre 500 ans sur Terre. Imaginez, nous sommes déjà 7,3 milliards, bientôt 9,6 milliards, peut-être 12 à la fin du siècle, et d'aucuns veulent vivre 500 ans. Mais c'est infantile. Libre à vous de croire à ces choses. Si elles arrivaient, elles ne pourraient toucher qu'une petite élite. On aurait un monde hyper inégalitaire, et par là même plus violent encore que celui que nous connaissons. Et quant à la fameuse convergence NBC, bah disons que quand on va arriver au niveau quantique, la loi de Moore risque de prendre un choc. Alors en conclusion, et bien là aussi, même si je suis dans ce scénario post-moderne, d'harmonie reconstruite avec la nature, très difficile, j'ai toujours mon incertitude de l'histoire qui est très pesante, mais je peux imaginer une civilisation où le savoir serait encore accru, mais où savoir ne déboucherait pas nécessairement sur pouvoir. J'aurais probablement un monde plus solidaire. On peut imaginer que les chocs que nous allons subir durant ce siècle, durant les suivants, petit à petit, peut-être, permettront-ils d'accoucher d'une humanité où la relation entre l'individu et le collectif serait moins pathétique qu'elle ne l'est. On peut effectivement imaginer une humanité plus spiritualisée, parce que devant renoncer à un consumérisme par bien des côtés, infantile et nous tirant vers le moins bon de ce que nous sommes capables de donner. Donc effectivement, nous allons devoir à la fois agir et subir. Et il revient à nous de choisir lequel de ces deux mondes nous voulons. Il en est encore temps.
Les forums du CESE sur le changement climatique sont à retrouver en intégralité sur le site du Conseil économique, social et environnemental. Ce 5e forum, comme les précédents, fera l'objet d'une publication.
C'était un sujet réalisé par Pascal Marcaggi.